Bienvenue tout le monde à un nouvel épisode de La Pointe de l'immobilier, un podcast bien sûr qui est dédié à l'immobilier commercial, industriel, multilogement. On parle de terrain, on parle de mindset, on va parler d'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir avec moi Mike Jagger. Bienvenue Mike.
Merci beaucoup.
Mike Jagger de Rose Fellow, une entreprise en pleine croissance dans l'industriel. Ils ont vraiment une vision incroyable et ils ont un super beau branding. Donc suivez l'épisode, ça va être vraiment intéressant. Merci. Right, Mike Jagger, bienvenue.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. C'est vraiment un plaisir de te recevoir aujourd'hui à mon podcast.
Avec plaisir.
Donc, tu commences à être connu quand même pas mal dans le monde industriel ou du moins sur les médias sociaux. Mmh. Vous êtes une belle entreprise, Rose Fellow, qui se développe très bien. Et vous laissez quand même votre marque sur les réseaux sociaux, ce qui est assez rare dans l'industriel.
Absolument.
Avant d'aller vers Rose Fellow, qui est votre core business, tu sais, je veux qu'on parle aussi de l'individu, qui t'es, d'où tu viens. Tu as un super de beau parcours. Ça fait comme quoi, 25 ans que tu es dans l'immobilier, je pense?
Plus ou moins 20 ans.
OK, c'est ça. Donc, ça fait quand même longtemps. Puis là, tu es en train, c'est ça, comme je dis, de te placer une belle place dans le monde industriel. Tu n'as pas toujours été dans cette industrie-là. Non. Mais en reste que l'immobilier, ça a quand même été quelque chose d'important pour toi depuis de longues années. Tu as un partner qui, malheureusement, n'est pas là aujourd'hui. Écoute, on sympathise avec lui. Il va s'en remettre. Puis next time, il va peut-être être là.
Absolument.
Donc, parle-moi un petit peu de comment tu as commencé, d'où tu viens.
Alors, j'ai commencé une carrière qui n'était pas du tout dans l'immobilier. Mon père était propriétaire d'une entreprise dans les textiles. On produisait les sacs de sport, les parasols promotionnels pour la Bat, Coke, ces genres d'entreprises.
Oui, oui, oui.
Mais j'ai toujours une passion pour l'immobilier parce qu'il était propriétaire de quelques bâtisses industrielles.
OK.
Alors, à un moment donné, il est tombé malade. Et j'ai dû partir du cégep pour gérer l'entreprise avec ma sœur. J'ai déménagé à Toronto pendant que ma sœur restait à Montréal. Okay. Et quand il s'est remis, puis il était en bonne santé, il a pris une décision. Il dit, écoute, ou je vous donne l'entreprise ou on la vend. Okay. J'ai pensé que c'est une opportunité idéale pour moi de vraiment aller dans ce que je voulais faire, c'était l'immobilier.
Okay.
Alors, j'ai dit que j'avais aucun intérêt de rester dans le textile.
Ouais, ouais.
J'ai commencé ma carrière dans l'immobilier comme courtier immobilier.
Ah oui?
Chez CBRE. Okay. J'ai commencé... je représentais CB dans l'aspect industriel, mais dans l'est de Montréal. Je connaissais rien dans l'immobilier. Quand ils m'ont dit l'est de Montréal, je savais pas où est-ce que ça commençait ou où est-ce que ça terminait.
Oui, c'est ça.
J'ai compris que c'est Saint-Laurent jusqu'à vraiment l'est de l'île.
Oui, exact.
Vraiment cold calling toute la semaine. Les fins de semaine, je passais à vraiment faire le tour des parcs industriels, prendre les adresses, prendre les dimensions de bâtisses et faire des rencontres au cours de la semaine.
Wow.
En dedans de 3 ans, je me suis démarqué chez CB comme vraiment un expert dans l'industriel.
Bien, c'est sûr.
J'ai eu l'opportunité de rencontrer les gens de Montagny en essayant de faire quelques transactions avec eux, un développeur de Laval, belle entreprise. Et ils m'ont donné l'opportunité de se joindre à leur équipe qui était développeur et contracteur dans le domaine industriel. J'avais une crainte ou une peur. Je connaissais pas la construction.
Mais ils m'ont dit... l'inconnu.
Exactement. C'est mais ça. Pour eux, c'était vraiment en me disant, écoute, c'est correct, t'es un bon vendeur, on va t'apprendre la construction. Et c'est de même que ça a commencé. J'ai passé 10 ans de ma carrière chez Montagny en leur aidant à développer un portfolio. Ça s'est bien passé. J'ai toujours aujourd'hui un respect incroyable pour cette entreprise et qu'est-ce qu'ils ont fait. Le propriétaire Dario Montagny est vraiment un class act. Mais à un moment donné, je me suis dit, C'est bien de bien faire les choses pour d'autres, mais on doit s'essayer à notre
c'est
compte.
Ça.
Mais durant cette carrière de 10 ans, j'avais toujours un compétiteur qui était toujours entre mes pattes, in my way.
Oui, c'est ça.
C'était Sam chez Broccolini. Dans le marché, c'était toujours Team Red, Team Blue. Équipe rouge, équipe bleue.
Okay.
Et Sam faisait exactement ce que je faisais, mais comme compétiteur direct. Alors, on se croisait tout le temps dans les salles de conférence. Ben oui, les ça. Gros pitchs de Amazon, de Ericsson, de mm-hmm. ABB. Quand je sortais dans une salle de conférence, il rentrait dedans, faisait ses présentations.
Okay.
J'en gagnais, il en gagnait. Et avec le temps et la maturité, tu comprends à respecter ton compétiteur. Et ouais. quand j'en perds une, j'envoyais un texto. Félicitations. Tu l'as eu, je ne l'ai pas eu. Good for you.
Yeah.
Et vice-versa. On a appris à se connaître. On est devenus amis. Nos épouses étaient similaires en âge. Nos mm-hmm. enfants ont le même âge aussi. Alors, on est devenus vraiment des bons amis. Puis à un moment donné, je pense que c'était peut-être un vodka trop. Où est-ce qu'on s'est dit, hey, ce serait le fun si on travaille ensemble avant, okay. à place d'être compétiteurs.
Souvent, ces idées-là, ils naissent de des petites choses comme ça.
Exactement. Ouais, ouais. Et c'est là qu'on a décidé de vraiment partir à notre compte.
Okay.
Pas d'investisseurs et pas de terrain. Vraiment, on a tout hypothéqué ce qu'on avait. Mm-hmm. On a pris un gros risque. Les gens qui nous connaissaient dans l'immobilier pensaient qu'on était un peu fous.
Parce
c'est
sûr.
On avait des salaires incroyables. Mountain & Buckley prenait vraiment bien soin de nous. Mais à un moment donné, il faut prendre un risque. Mm-hmm. Alors, même nos épouses ont dit, écoute, qu'est-ce qui arrive si on perd tout? Bien, on commence à zéro.
Mais ouais, c'est ça.
Mais il y avait une peur, mais pas vraiment une peur. Puis je t'explique pourquoi. Quand j'ai parti de l'entreprise de mon père pour commencer l'immobilier, mm-hmm. j'ai tout vendu pour suivre mon rêve.
Donc, alors, tu l'avais déjà fait. Je l'ai déjà fait. De zéro, si on peut
exactement.
Dire.
J'ai vendu ma maison, j'ai vendu mon camion.
C'est ça.
Je me suis loué une petite Mazda. On a déménagé dans le 1,5 appartement de mes beaux-parents pour commencer l'immobilier. Alors, le pire des cas, c'est qu'on aurait toujours la santé.
Oui,
si
absolument.
On part tout... J'ai déjà vécu cet aspect-là de commencer à zéro.
Tu avais dit au Real Estate Effect, tu avais dit comme ta femme, justement, tu avais dit ça, puis ouais. tu avais dit le pire qu'on va retourner, on retournera en appartement.
Exactement.
Whatever.
Exactement.
T'sais. On repartira.
Mais mon pire, moi, la pire chose qui peut m'arriver dans la vie, c'est de vivre une vie avec des doutes. What if? Qu'est-ce qui se passe?
Exactement.
Tu sais, arriver à l'âge de 75 ans, puis dire, ben si j'aurais essayé, qu'est-ce qui aurait changé dans ma vie? Alors, je me suis dit, mieux de prendre les risques. Puis si ce risque-là ne fonctionne pas, c'est correct. Il y a d'autres options dans la vie.
Alors, absolument. J'aime tellement ça, ce que tu dis là.
Alors, on a pris le risque, comme j'ai dit, pas d'investisseurs, pas de terrain. On a passé deux premiers mois en affaires en rencontrant tous les gens qu'on connaissait dans l'immobilier, mm-hmm. des investisseurs à Toronto, à Montréal puis à New York. Puis ce qui est intéressant, c'est quand on faisait ces présentations-là des investisseurs, ils disaient, bien, c'est quoi que vous voulez? Vous êtes là pour présenter des terrains, vous voulez de l'argent? On dit non. Tout ce qu'on veut, c'est créer une relation avec vous pour okay. que quand on aura un beau terrain, un terrain intéressant à développer, prenez notre appel. C'est juste ça qu'on veut.
Okay.
Alors, la demande est simple. Pas de problème, voici ma carte, voici mon numéro de cellulaire. Appelle-moi, texte-moi, quand t'auras de quoi.
Okay.
Et par la suite, on s'est fait frapper par la COVID. Ça, on a commencé le septembre 2019, juste avant le COVID. Décembre, COVID frappe.
Ouais.
Et là, les investisseurs qui étaient prêts à investir avec nous, ils ont dit, écoute, on va attendre.
Ils ont backé. Ouais,
on backé.
C'est ça.
Mais ce que ça donne, c'est une opportunité aux autres investisseurs, les bureaux de famille, qui n'est pas des gros instituts, qui disent, écoute, ben, si les autres ne sont pas intéressés, on est toujours là. On va investir.
Okay.
Et c'est de même que ça a commencé. On avait une vision claire, ce qu'on voulait faire, c'est vraiment le développement industriel. Un peu de multirésidentiel, mais vraiment, le focus, c'est l'industriel. Et pourquoi? Parce qu'on voyait une croissance dans les taux de loyer et la baisse dans le taux de disponibilité dans la province de Québec.
Il y a eu une énorme croissance dans les loyers. Là.
Absolument.
C'est
absolument.
Ça. Un gros boom.
Puis ce qui ne se faisait pas dans l'immobilier industriel à Québec, c'est la construction en spéculatif.
Okay.
En spec, comme on l'appelle.
Oui, oui, oui.
Construire sans locataire. À Québec, ce que le monde faisait, c'est mettre des enseignes à louer puis attendait.
C'est ça.
Quand tu signes un bail, c'est là que tu commences la construction.
Exact.
Le problème, c'est que de ces jours-ci, quand un locataire est prêt à signer un nouveau bail, il n'y a pas deux ans à attendre pour avoir une livraison d'un bâtiment.
Ben non, c'est
il
ça.
Il la veut dans six mois.
Ah oui.
Construction, ça ne peut pas faire dans six mois avec des permis de construction. Alors nous, on prenait les risques financiers avec nos investisseurs
okay.
pour construire sans locataire. Et là, avec la pandémie, ce qui est arrivé, la demande pour l'industriel a pris une croissance incroyable. Et les seuls qui avaient des bâtiments neufs sur le marché, prêts à louer, étaient nous.
C'était vous autres.
C'était nous. Alors, initialement, quand on a commencé, on s'est dit, si on en construit une en dans deux ans, on va être correct. Ce qui est arrivé, c'est que on en a construit quatre rapidement. Et après une année en affaires, on s'est dit, bien là, il y a une grosse demande pour l'industriel. Peut-être qu'il faudrait faire un fonds immobilier pour vraiment accélérer l'expansion de Rosefellow. On a rencontré nos investisseurs, pas nos investisseurs, excusez-moi, nos avocats, puis nos consultants en disant, écoute, on veut créer un fonds immobilier.
Okay.
Ils ont tous dit qu'on est fou. Un an en affaires, créer un fonds immobilier, personne ne va investir avec vous. Impossible.
Oui, parce que vous n'avez pas le background.
Track record.
Le track record, c'est ça, exactement. Track record. Vous avez un bon track record dans votre industrie avant, mais là, lever des fonds. Puis je vous avais levé un gros fonds, là, si je me rappelle bien.
Alors, le premier fonds, un an en affaires, on s'est dit on veut lever un fonds de 100 millions.
OK, quand même.
Alors, nos avocats conseils ont dit non, ça ne se fait pas. Alors, on a mis ça de côté. On s'est dit on va le faire de notre manière.
Okay.
On va se faire une liste de 100 investisseurs, puis on va les appeler un après l'autre. Après trois appels, on a mis ensemble 100 millions de dollars.
Wow! Après trois appels.
Les premiers trois, on dit amen, amen, amen.
OK.
100 millions. On s'est dit ça va prendre 7 années pour investir ces 100 millions-là. Ça a pris 12 mois.
Ben voyons donc.
12 mois, 9 projets. On s'est dit on va en faire un deuxième fonds. Le deuxième fonds, c'est 115 millions.
Okay.
Ça a pris 4 mois à investir. Alors, en date de... Là, on est rendu à notre 4e anniversaire en affaires.
Mm-hmm.
On a 21 projets de développement à Québec et en Ontario. On a presque 3 milliards de dollars en projets industriels dans les deux provinces.
Mm.
Alors, tout ça pour dire que quand on a un rêve puis on y croit...
Absolument.
Il faut le suivre.
Bien, c'est sûr. Wow! Très, très beau parcours. Et puis, vous avez... là, c'est ça, vous redonnez beaucoup. J'ai vu aussi une entrevue que vous avez faite. Pas une entrevue, mais je pense une conférence. Puis, tu sais, vous vouliez vraiment redonner aussi à la communauté, là.
Absolument. Absolument. C'est quelque chose d'important pour nous. On est très, très contents. We're very humbled. Mm-hmm. Excuse le terme anglais.
Non, mais it's fine. You can speak in English if you want.
We're very humbled que des investisseurs ont cru en nous au début.
Mm-hmm.
On veut redonner quand on peut, que ce soit à des hôpitaux, que ce soit pour les enfants, mais que ce soit même pour les jeunes qui rentrent dans l'immobilier.
Ben oui, c'est ça.
Si on peut donner, c'est pas toujours de l'argent, c'est notre temps. Nos portes sont toujours ouvertes. Quand on rencontre des gens, quand on fait des présentations à des écoles, on les invite à nous rencontrer. On les invite à comprendre c'est quoi un proforma, comment qu'on développe un projet industriel.
Exact.
Souvent, les jeunes nous disent bien, votre premier projet en immobilier, c'est un projet de 100 millions de dollars. Je dis oui, c'est juste une valeur d'argent. C'est un différent genre d'investisseur. C'est le même temps que tu vas investir dans un projet, que ce soit 100 millions, 10 millions, 1 million de dollars. C'est le même temps que tu vas passer avec une ville pour les permis, projet de construction. La seule différence, c'est la valeur. Soyez pas peur du montant.
Il faut enlever cette barrière-là de montant. C'est... Patrice, même, il dit des fois, c'est une espèce de baromètre.
Oui.
C'est sûr, si tu parles juste de 100 $ tout le temps, pour toi, 1000 $ c'est beaucoup.
Absolument.
Mais parle de 100 millions. Moi, je parle pas souvent de 100 millions.
Oui.
Ça peut paraître beaucoup, mais c'est une couple de zéro de plus que 1 million. Là.
C'est un différent genre d'investisseur. Puis pour nous, investir, c'est ça que j'ai expliqué à un des premiers investisseurs, pour nous, Rose Fellow, au début, investir 1 million de $ de notre argent, de notre cash... Ouais. C'est le même 100 millions pour eux. C'est tout ce qu'on avait.
Absolument.
Alors, ils ont bien compris ça. Puis, ils savaient, si on perdait 100 millions-là, on perdait tout. Comme que eux, s'ils perdaient 99 millions, bien, pour eux, c'est un autre chèque qu'ils allaient faire.
Oui, c'est ça. Puis, vous savez bien vous entourer aussi.
Absolument. Absolument.
Je pense que vous avez une force là-dessus.
C'est... pour nous, une chose qui était très importante dès le début, c'est qu'on ne voulait pas d'avoir de silos dans notre entreprise. Le jour 1 qu'on trouve un terrain qui est intéressant, même avant qu'on close au notaire, on veut s'entourer des meilleurs dans l'industrie. Alors, on a un terrain qu'on regarde. On invite jour 1 nos architectes, nos ingénieurs, un contracteur général qu'on pense serait le meilleur pour le projet et on regarde comment faire le concept ensemble. On a un budget en tête de combien on peut investir dans ce type de bâtiment-là puis on le fait ensemble. À place de ce que tout le monde fait habituellement, il trouve un terrain, il remet le certificat de localisation, un architecte dit, voici, fais-moi un concept.
Exact.
Il remet ça à un contracteur général. Le contracteur général revient à un prix de 15, 20, 30 % trop cher. Il revient à l'architecte en disant, remodifie le design pour donner un budget qui est intéressant. On invite tout le monde autour de la table jour 1 pour faire le concept ensemble. Ça crée une bonne relation entre l'équipe, mais aussi tu travailles en parallèle pour arriver à un budget qui est intéressant pour tout le monde pour réaliser un projet.
Ah, c'est intéressant. Oui, parce que c'est toujours c'est toujours la même chose, ça. Les gens, ils trouvent un terrain, puis là, ils vont tout de suite prendre le certificat de localisation, puis fais-moi un plan avec ça.
Exactement.
C'est un petit peu travailler à l'ancienne, en fait.
Absolument, absolument.
Puis vous avez justement développé des nouvelles façons de travailler dans l'industriel. Puis...
Bien, un des aspects qu'on entend souvent de commentaires, c'est notre aspect marketing
dans
l'industriel. On a toujours trouvé que l'industriel, quand ça arrive au marketing, au branding, c'était toujours le terme anglais « flatline ». Il n'y a pas le même edge comme dans le résidentiel. Quand on voit un beau projet, une tour au centre-ville, que ce soit Montréal, Toronto, New York, des belles présentations, des belles vidéos, mais l'industriel, tu vois ça sur LinkedIn, un bâtiment.
C'est square. T'sais, souvent, c'est square, c'est comme.
Exactement.
T'as pas... Oui, il y a du design, mais de plus en plus, il y a du design. Hein?
Oui.
Puis il y a du design. Là, en ce moment, il y a beaucoup de technologie en arrière des bâtiments industriels. Absolument. Vous êtes très innovateur là-dessus.
Absolument.
Là.
Artificial intelligence.
Aussi.
AI, qui est très important. Mais tout l'aspect de branding, on voulait apporter un edge à l'industriel en disant que c'est cool être développeur dans l'industriel. C'est cool des bâtiments industriels. Et évidemment, là, ce qu'on voit avec tout ce qui se passe dans le monde, c'est que l'industriel, c'est là où est-ce qu'il y a la plus de valeur. Mm-hmm. Avec les cap rates qui baissent, puis les taux d'intérêt qui sont très, très, très élevés, la demande pour des condos résidentiels, moindre. Mais alors...
Mais vous, le taux d'intérêt, vous avez toujours été dans l'industriel, ça a toujours été plus haut que tout le monde. Là. Vous êtes habitué du 8 % vous autres.
Ce qui aide aussi dans l'industriel, c'est qu'il y a une croissance incroyable des taux de loyer.
Oui, c'est ça.
Alors, avec l'augmentation des coûts de construction, ce qui aide, c'est que les taux de loyer augmentaient beaucoup plus rapidement. Alors, tu étais capable d'absorber ce coût-là. Dans le résidentiel locatif, comme exemple, les taux de loyer n'augmentent pas aux mêmes vitesses. Alors, quand tes coûts de construction augmentent, puis ton coût de loyer n'augmente pas, bien, il y a un problème à quelque part.
Absolument. Mais nous autres, c'est ça que je parlais dans une autre vidéo hier, c'est que les salaires, on ne sait pas si les salaires vont continuer à augmenter ou qu'ils vont suivre un petit peu l'inflation, ce qui va peut-être freiner le résidentiel au niveau du coût des loyers. T'sais.
Absolument.
Tu parlais d'ailleurs dans le monde. Est-ce que vous inspirez un petit peu de ce qui se fait ailleurs dans le monde au niveau industriel?
On regarde des très gros développeurs, Prologis, qui développent de l'industriel partout dans le monde. Et on regarde cette philosophie-là, on se trouve ça très intéressant. Et c'est une des raisons pourquoi on n'est pas contracteur général. Okay. Parce qu'on se dit des opportunités partout dans le monde. Mm-hmm. Mais si on serait contracteur général puis on voudrait utiliser notre équipe pour chacun des projets, ce serait impossible de développer partout.
À la
vitesse qu'on développe. 21 projets en un an de 4 ans, tu ne pourras pas le faire avec une équipe de construction. Tu pourras avoir ton meilleur directeur de construction sur un, mais pas sur les 21.
Non,
alors,
c'est ça.
En s'associant avec les meilleurs architectes, contracteurs généraux, ingénieurs dans chacune des villes, des provinces, des États, c'est là que tu es capable de vraiment prendre une croissance en dehors de où est-ce que tu viens de Québec ou Ontario.
Oui.
Et c'est à cause de ça qu'on serait capable, on va être capable de faire une expansion aux États-Unis, on se dit dans 2-3 ans. Okay. Et c'est à cause de ça qu'on voit d'autres opportunités en Europe et d'autres secteurs du monde.
Ah oui, quand même. Hein? Mm-hmm. Fait que Rosefellow, ça va devenir international.
On voudrait le faire, absolument.
That's nice.
Oui. On a le désir, on a la passion de le faire.
Ben oui.
Puis tant qu'il y a une opportunité, que ce soit Seattle, Jersey, à Londres, on va être en mesure de développer de ces secteurs.
Mais comment on fait pour sortir des frontières comme ça?
On arrête de se mettre des barrières. Tu parlais des barrières de dollars, d'un 100 dollars, d'un 1 dollar. Je pense que c'est les mêmes barrières qu'on se donne quand on développe dans d'autres secteurs. Quand on a décidé de développer en Ontario, on s'est dit, bien, on n'a pas de contact.
C'est ça.
On s'est associé avec des ingénieurs et des architectes qui connaissaient le coin, qui connaissaient les villes, qui connaissaient les bons réseaux. Et c'est de même qu'on a pu bien développer. On a conçu 535 000 pieds carrés pour Ford Canada en Ontario.
Okay.
C'est un projet qui s'est très, très bien passé parce qu'on avait les professionnels de ce coin-là qui étaient capables de nous assister dans le développement d'un secteur. Présentement, on a 4 autres projets en Ontario.
Okay.
On va en avoir 2 autres à Toronto très bientôt. Même philosophie. Trouver les meilleurs des meilleurs dans les professionnels dans ces coins-là pour nous aider à développer.
That's nice. Vraiment nice. Vous avez fait un autre projet aussi que je regardais. Le nom m'échappe, là. C'est une grosse usine réfrigérée que vous avez fait.
Congébec,
merci. Oui, c'est ça.
Encore là, on n'est pas expert dans la
réfrigération.
Exactement. Yeah. Mais tu t'associes avec ceux qui le sont. Des bons contracteurs, des bons ingénieurs. Et c'est là que tu es capable de vraiment comprendre les besoins. Si tu utiliser un contracteur qui est expert dans le résidentiel, ce ne sera peut-être pas le même contracteur que tu vas utiliser pour un bâtiment industriel.
Non, c'est ça.
On a des contracteurs généraux qui sont très, très bons à faire des bâtiments industriels de 100 000 pieds carrés, mais qui ne le sont pas pour un 400, 500, 600 000 pieds carrés. Alors, en n'ayant pas une division de construction à l'interne, on est capable de choisir ceux qu'on trouve et sont experts. Autre aspect qu'on fait qui est un peu différent, on ne met pas 4 contracteurs généraux un contre l'autre en soumission.
Okay.
On choisit qui qu'on pense est le meilleur, qui a le meilleur gérant de projet qui est disponible pour les chantiers qu'on a. Mm-hmm. Et c'est là qu'on l'invite à travailler avec nous, il sait notre budget. On a toujours un deuxième qui est en backup, on va dire. Oui. S'il n'est pas capable de livrer dans le budget, dans les délais, l'autre, il va rentrer. Alors, créer cette relation de confiance permet de garder une bonne relation, mm-hmm. respecter un budget puis un échéancier qui est extrêmement important.
Puis vous l'avez fait avec ce projet-là parce que justement, la personne qui parlait en entrevue, oui. il disait que vous avez livré en temps mm-hmm. puis dans les coûts.
Absolument.
Ça, c'est exceptionnel dans le monde de la construction.
Absolument.
C'est toujours le plus grand défi, c'est les coûts puis les délais.
Absolument. Puis ce qui nous aide aussi, c'est en construisant en spec spéculatif, mm-hmm. on a notre échéancier, on n'attend pas un locataire. Alors, notre calendrier de construction, mm-hmm. présentement, on a 4 millions de pieds carrés qui va être en chantier dans les prochaines 1 an et demi.
OK, quand même.
4 millions de pieds carrés de construction. Alors, quand tu présentes ça à un contracteur général ou deux ou trois, puis tu lui dis, écoute, voici ce qui s'en vient. Mm-hmm. Tu fais les choses de la bonne manière. Bonne manière, ça veut dire délivrer à temps puis à budget. Bien, il y a d'autres projets que tu pourras avoir. Si t'es pas là, t'es pas dans le budget, puis tu livres pas à temps, puis des extras un après l'autre,
ben oui, c'est ça.
T'auras pas ton 4 millions. Tu vas plus faire affaire avec nous.
Exact.
On a deux règles. Respecter les budgets et les chantiers, puis l'autre, ne devenez pas compétiteur. Un contracteur qui veut devenir développeur, va plus faire affaire avec nous.
C'est ça.
Contracteur devrait rester contracteur. On est correct, tout le monde veut agrandir le business, puis s'il veut être développeur, on va le respecter, on va rester amis, mais on va pas travailler ensemble.
Mm-hmm. Oui, c'est ça. Parce que justement, vous vous démarquez parce que vous êtes, tu sais, l'immobilier, souvent, on pense qu'on gère de l'acier ou dans l'industriel, c'est beaucoup d'acier. Mm-hmm. Je vais prendre cet exemple-là. Moi, j'ai tout le temps de la brique, là.
Oui.
Mais c'est une business people.
Absolument.
People business.
People business, exactement.
People business, oui, c'est ça. Je suis francophone. Mais ma conjointe est anglophone, fait qu'elle m'aide beaucoup en anglais. Mais c'est ça. Puis vous avez développé, vous aimez ça, développer des bonnes relations avec les gens, des relations à long terme. C'est ce qui fait vraiment votre succès, là.
C'est
en partie, du moins.
Exactement. On reçoit le commentaire. Il y a un architecte, je ne vais pas le nommer parce que mes compétences ne sont pas contents. mais un des architectes qui est en affaires, ça fait longtemps.
Okay.
Il est expert dans l'industriel. Puis il nous dit qu'il se sent tellement. Il y a tellement de fun d'être avec nous. C'est comme une second life. Parce qu'on est ouvert, il n'y a pas de cachette. Mm-hmm. On les évite jour un. On ne lance pas des idées. On lui dit soyez créatif, tu as un budget à respecter. Parler avec le contracteur pour créer un projet qui a de l'allure dans le budget. Mais allez-y, faites comme vous pensez. On a des idées de couleurs comme qu'on veut la bâtisse, mm-hmm. des hauteurs, des espaces de colonne. Mais soyez créatif. Puis il adore ça. Mm-hmm. Le monde n'aime pas être restreint puis travailler dans un silo. Il aime ça être créatif.
Ben oui, c'est sûr. Surtout des architectes, puis c'est des artistes, là.
Absolument.
Un aspect, je ne veux pas trop qu'on s'éternise là-dessus, mais quand même, c'est un aspect qui est important de nos jours, c'est le carbone zéro.
Mm.
Puis tu sais, ça, le carbone zéro, on en parle beaucoup, ESG, tout ça. Je sais que vous avez fait un immeuble industriel zéro carbone.
Tous les projets qu'on fait en date de la fin 2023, mm-hmm. puis en allant dans le futur,
okay.
Vont être ESG.
Okay.
Excuse-moi, pas ESG. Vont être carbone zéro.
Carbone neutre, là.
Carbone zéro.
Oui.
Et vont être certifiés LEED.
Okay.
Et la raison première pour nos incitatifs ESG à mm-hmm. l'interne,
oui.
C'est des gros polluants. Le développement immobilier, les bâtiments industriels.
Oui. Surtout l'industriel.
La cheval qu'on voit, les stations de parking. Alors, si on peut faire de quoi pour aider mm-hmm. notre environnement, on va le faire. De plus, si on y pense financièrement, mm-hmm. les instituts financiers,
okay.
ils vont donner des avantages financiers, que ça arrive au taux d'intérêt, pour des projets. Parce que les incitatifs, pour eux aussi, eux autres aussi ont des incitatifs ESG à l'interne pour les banques. De plus, si on y pense dans 10 ans, les gros investisseurs, les gros instituts, eux aussi ont des critères. Ils vont pas être en mesure d'acheter des bâtiments, que ce soit industriels, que ce soit résidentiels, qui ne le sont pas carbone zéro, qui ne le sont pas certifiés LEED. Alors, si, par exemple, on a le seul portfolio industriel de 15 bâtiments qui sont tous certifiés carbone zéro, certifiés LEED, qui aura un avantage dans les cap rates dans le marché?
C'est sûr, c'est vous autres.
Alors, oui, il y a un aspect d'environnement, mm-hmm. mais encore financièrement, il y a un avantage. Les gens, souvent, ils posent la question, ben, c'est-tu tellement plus cher mm-hmm. construire un bâtiment carbone zéro, un bâtiment LEED? Ça dépend c'est quoi votre baseline. Si tu as un baseline qui est inférieur à la moyenne, mm-hmm. oui, ça va te coûter beaucoup plus cher. Notre base de construction est déjà très élevé. On est à plus ou moins 4 % de plus cher pour se rendre à un carbon zéro, à une certification LEED. C'est pas plus cher pour nous.
Ben non, c'est ça, exactement.
Et le retour sur les cap rates va repayer ce 4 % rapidement.
Oui, c'est ça, exact. J'ai fait une entrevue avec Nathalie Volant.
Absolument, oui.
Oui, puis justement, c'est ça, on en a parlé beaucoup au niveau du financement. Puis c'est très méconnu, mais ça s'en vient. Le financement, là, il va avoir des avantages intéressants. Les banques, ben ça fait longtemps que... Elle, ça fait longtemps qu'elle parle d'ESG, là. Mm-hmm. Mais les banques, là, de plus en plus, ils vont donner des incitatifs.
Il y a déjà des avantages, absolument.
Ben oui, absolument. J'avais un autre point que j'ai remarqué. Vous avez sorti un nouveau branding de shoes. Je veux vraiment que tu m'en parles. C'est sharp, j'en veux en passant. Ils sont vraiment beaux.
C'est... alors, comme vous voyez, je suis pas développeur immobilier en suit, en cravate.
Oui, pas de cravate, pas de suit. J'adore ton style, by the way.
J'ai passé 10 ans de ma carrière en cravate, 3-piece suit,
ouais,
à tous les jours. Puis c'est correct. Plusieurs de mes compétiteurs sont toujours comme ça. Puis c'est corporate, c'est correct.
Oui.
On ne voulait pas donner une image de personnes que nous ne sommes pas.
Oui, c'est ça.
Puis revenir au branding, avant qu'on parle de souliers, je me rappelle une des premières présentations qu'on avait avec un gros investisseur de Toronto. C'était en Teams à cause du COVID.
Okay.
Alors, il embarque sur l'appel, puis il était en cravate. Il était de chez lui, mais il était en cravate.
Ouais, ouais, ouais.
C'était le président. Et on était en casquette, on était en T-shirt, puis on était tatoué. Puis nos gars disaient, ah, vous n'êtes pas habillé pour la rencontre? Mais écoute, ce qu'on va vous promettre, wow. What you see is what you get. Wow. Ce qu'on vous promet, c'est que ce qu'on va vous livrer, ça va être des projets de qualité, des projets en budget, puis on va livrer à temps. C'est OK. Par la quatrième rencontre qu'on a eu, Teams, il était en T-shirt. C'était un vendredi, il y avait un Coors Light à la table, il y avait une casquette Rose Fellow. Il dit, écoute, j'adore travailler avec vous. Il n'y a pas de cachette, il n'y a pas de bullshit.
C'est ça.
Puis c'est nos slogans, no bullshit. Pour arriver aux souliers, notre branding, comme tu vois, c'est très simple. T-shirt, jeans.
Ben, alors, c'est what you see, what you get.
Pour notre quatrième anniversaire d'entreprise, septembre récemment, mon partenaire en affaires, Sam, un de ses bons amis, c'est un artiste et il fait des designs de souliers. Alors, il nous en a fait un, pour moi puis Sam, puis nos garçons. Moi, j'ai un gars de 12 ans, Blake, puis Sam a deux garçons aussi. Alors, il a fait des souliers comme cadeau. On les a portés. Tout le monde a vu ça, puis dit, j'en veux. Des Nike noirs avec le branding en rose. Alors là, on fait des cadeaux Noël. C'est pas des bouteilles de vin, c'est pas du sirop d'érable, c'est vraiment des souliers de course brandy Rose Fellow.
Oui, c'est ça. Mais c'est une super bonne idée parce que, comme je dis tout le temps, c'est ça, quand tu fais une transaction, parce que tu me disais au notaire, des fois, je donne une boîte de souliers, c'est sharp.
C'est différent aussi.
C'est différent. Mm. Puis vous laissez vraiment votre marque. Il est de plus en plus dans cette industrie-là, qui, comme on dit, qui est flatline.
Oui.
Puis vous êtes... Merci, tu sais, de venir à des entrevues comme ça. Vous faites voir l'industriel d'une autre façon. Est-ce que tu penses qu'il y a des gens qui s'en vont dans cette direction-là aussi, peut-être?
Je vois ça de plus en plus.
OK.
Je vois ça de plus en plus dans les conférences. C'est des gens à jeans, c'est des gens qui sont plus relax.
OK.
Les gens qui nous rencontrent, même les courtiers immobiliers comme vous, quand ils nous rencontrent, ils disent, hey, Mike, c'est le fun parce que je peux venir à vos bureaux en T-shirt, en jeans. Je me sens pas être obligé de mettre un habit. Puis encore en affaires, les gens font affaire avec ceux qui aiment faire affaire.
Oui.
C'est le privilège d'avoir un appel d'un courtier en disant, écoute, j'ai toi et quatre autres compétiteurs, mais mon client me demande avec qui je devrais faire affaire. Puis je leur dis, je préfère que ça soit Rose Fellow. Parce que c'est des gens honnêtes, c'est des gens de classe. Puis on le sait comment c'est. J'étais courtier immobilier. C'est important de garder une certaine confiance entre les gens.
Ben oui.
La semaine passée, on a fait une transaction, une belle transaction avec un courtier immobilier, puis son partenaire. Et on a signé le bail, je pense que c'était à 10 heures du matin. À 4 heures de l'après-midi, la commission était dans son compte de banque.
OK, wow.
Des petites affaires comme ça qu'on a su. J'étais courtier immobilier, j'ai su comprendre que des fois, il faut courir après un propriétaire pour avoir notre commission, même si on a apporté le client, on a travaillé 2 ans pour l'apporter. Puis là, courir après une commission, comme exemple...
Puis c'est des transactions qui sont longues, là.
C'est des transactions longues, mais quand tu arrives au bout de la ligne, puis tu signes le bail ou tu signes la transaction, tu te payes tout de suite. C'est l'end goal. Puis courir après ça, c'est pas le fun. Alors, des petits détails comme ça qu'on trouve qui aident notre relation avec les gens dans le marché.
Ben oui, on s'en rappelle, ces choses-là. Tu vas t'en rappeler du client qui t'a couru après pour son argent.
Puis tout le monde va en parler. Montréal, c'est un village. Tout le monde se connaît, tout le monde s'en parle. Tu fais les bonnes choses, peut-être que tu vas pas en entendre parler. Mais quand tu fais les mauvaises choses, puis t'es pas honnête avec les gens, mm-hmm. tout le monde est au courant.
Ben oui, c'est sûr. Mais l'immobilier, c'est un petit monde en soi, là.
Mm-hmm. Absolument.
C'est un petit monde. On pense que, oui, il y a beaucoup, beaucoup d'immeubles, il y a beaucoup de blocs, il y a beaucoup de choses comme ça, mais c'est... les gens qui sont dans l'immobilier... C'est...
Tout le monde se connaît.
Tu vas au Real Estate Forum, puis tu revois toujours les mêmes visages chaque année.
Absolument.
Il y avait, faites-vous si je mettons quelqu'un qui veut être dans l'industriel, c'est quoi les conférences que vous allez en industriel environ?
Rencontrer des gens, je pense pas que ça se limite aux conférences. Parce que oui, c'est le fun d'aller aux conférences. On va rencontrer d'autres courtiers immobiliers.
Ouais.
C'est intéressant. Si tu es de l'industriel, comme exemple, comprendre ton marché. Si tu veux développer dans le secteur de la rive nord, faire un tour du parc industriel. C'est le même que j'ai commencé. J'ai fait le tour de tous les parcs industriels. Je connaissais chacune des bâtisses, les pieds carrés qui étaient propriétaires. Je les appelais, je continue à les appeler jusqu'à temps qu'ils donnent l'opportunité de les rencontrer. Et c'est le même que j'ai eu du succès. C'est vraiment connaître mon marché.
C'est exactement ce que je fais dans le résidentiel, dans le multilogement. Il y a des gens avec qui que ça fait 2, 3, 4 ans que je parle. Je n'ai pas encore fait de transaction avec eux, mais je bâtis la relation avec eux.
Exactement. Puis ils aiment ça qu'ils sachent qu'on connaît le marché. Tu es capable d'appeler un propriétaire et dire « Hey, ton voisin, il t'a veillé de vendre, puis ça va se vendre à un cap rate de ça. » Puis la vente va se faire à ce montant-là. Hey, ils connaissent son marché. Bien le temps de me rencontrer. Les gens veulent comprendre ce qui se passe dans le marché.
Ben oui. Nous autres, on a beaucoup de clients qui s'abonnent. Parce que moi, dans notre base de données, c'est je suis capable de savoir qui clique sur mes immeubles que j'ai envoyés. Puis je fais du tracking. Puis souvent, il y a des gens qui vont cliquer 8-9 fois sur un immeuble. Right. Je l'appelle, je dis hey, qu'est-ce qui se passe? Tu veux-tu acheter? Non, je fais juste regarder le marché.
Exactement.
Fait que là, je discute avec eux, puis je leur donne. Je les feed. Sur l'information du marché.
Absolument. Absolument.
Y a-t-il un conseil que... C'est quoi le pire conseil que tu as déjà eu?
Le pire conseil, do it for the money.
OK.
Puis c'est l'inverse complètement. Si tu as une passion pour quelque chose, continue à faire ce qu'il faut faire pour le faire. C'est pas l'argent. Mais initialement, même avant ça, c'est de toujours penser c'est quoi le pire des choses qui peut arriver. Quand j'ai commencé, comme j'ai dit, j'ai tout hypothéqué, puis je me suis dit, c'est quoi le pire des cas? Vivre dans un 1,5, perdre tout mon argent, c'est correct, il y a d'autres options.
Exact.
La famille va être là, quelqu'un va nous aider. Il n'y a pas plus pire que ça. Puis c'est correct, je suis capable de vivre avec cette pire de situation-là. Mets toutes les cartes sur la table et crée une liste des choses qui peuvent arriver si ça ne fonctionne pas. Si tu es capable de vivre avec le pire des cas, vas-y. J'entends des gens dire, mais j'ai une hypothèque, puis j'ai des factures à payer. Mais demain, si ton boss, il vend la compagnie, puis tu travailles plus là, t'as les mêmes factures, t'as la même hypothèque, mais là, t'es contrôlé par la vision de quelqu'un d'autre. Je préfère être control my own destiny.
Absolument. J'ai fait la même chose. Moi, je travaillais dans un domaine où j'avais un fonds de pension, j'étais fonctionnaire, j'étais sécurisé. Puis j'avais le désir d'avoir plus, puis j'avais le désir de travailler pour moi.
Absolument.
Puis pour mes rêves. Puis du jour au lendemain, j'ai planifié mes choses. Là.
Exactement.
Mais je me suis mis une date, puis j'ai dit, that's the date.
Exactement.
Puis là, le jour, j'ai sorti toutes mes REER, j'ai sorti mes affaires, j'ai foncé. J'avais no plan B, j'avais un plan B.
Exactement.
Plan A. That's it.
C'est exactement
parce
ça.
Parce que je me dis dans la vie, si t'as un plan B, ton plan A, tu vas pas le mettre à 100%.
Je suis totalement d'accord avec toi.
Fait que s'il y a quelqu'un qui m'avait dit ça, ça serait quoi ton plan B? I don't have.
Ouais.
C'est comme, c'est ça, puis c'est ça. Puis si un jour ça fait plus mon bonheur, ben je vais aller sur d'autres choses, je vais avoir un plan A sur d'autres choses.
Mais tu pourras toujours te dire que tu as essayé.
Exactement. C'est exactement ça. Je voulais pas avoir des sur mon lit. C'est Denzel Washington qui disait ça. Sur ton lit de mort, tu as des ghosts. Oui. Puis les ghosts de remords. Puis de,
exactement.
Tu sais, si j'aurais dû.
Je l'ai entendu, puis je suis totalement d'accord.
C'est
avec
ça. Non, c'est fou, c'est fou. Good. Fait que, écoute, c'est tout le temps qu'on a pour aujourd'hui.
Merci beaucoup d'avoir de me donner l'opportunité de parler avec toi. C'est un grand plaisir.
Bien, merci beaucoup d'être venu. Fait que, où est-ce qu'on peut trouver? On peut trouver sur. Est-ce que moi, je peux trouver sur Facebook, Instagram?
Puis nos numéros de téléphone sont sur nos sites web.
Okay.
Quelqu'un a des questions, il veut nous rencontrer pour comprendre comment que ça fonctionne, Roosevelt, comment que ça fonctionne un projet, un développement. Mm-hmm. On est toujours là pour répondre à des questions.
Est-ce que tu cherches toujours des investisseurs ou des gens qui veulent.
On est toujours ouvert à travailler avec des gens, absolument.
Okay.
Nos projets ne sont pas tous des projets de 2, 3, 400 millions de dollars. C'est des projets, même des fois, qui sont de 20, 30, 40 millions. Des projets, des investisseurs qui sont plus petits, puis d'autres investisseurs qui sont plus institutionnels pour des gros projets. Alors, absolument.
OK. Excellent. Écoute, j'aurais eu encore plein d'autres questions pour toi, mais garde
à la prochaine.
À la prochaine, puis ça va mieux pour être là pour la prochaine fois. Merci tout le monde. Puis abonnez-vous si vous avez aimé l'épisode.
Merci.